et ce qui est à jeter. Pour ma part, moi j'ai très souvent une amie qui vient à la maison et qui me dit voilà, ça c'est indémodable, tu peux le garder, c'est de très bonne qualité, et puis ça franchement tu même si t'as rencontré Jean-Philippe avec tu peux le mettre à Emmaüs ou ailleurs.
Ouais. Voilà. Alors j'en profite pour préciser à nos auditeurs une petite information locale. Ce week-end, vous avez l'association Auder qui fait un ramassage de tous les objets dont vous n'avez plus besoin, qui passe chez vous gratuitement donc ce dimanche pour vendre ensuite tous ces objets le week-end de l'Ascension. Ça se passe à Montmorency. Donc on n'est pas très loin, hein. Donc c'est l'Auder et vous pouvez les appeler, vous trouverez leurs références sur internet pour vous aider à faire le vide justement dans vos placards, les vêtements, les meubles, tout ce dont vous n'avez plus besoin.
Sans aller ensuite à la brocante pour recharger.
Pour les racheter, voilà, absolument, même si c'est pas cher. Hein. Bon après vous avez bien entendu les associations, la Croix-Rouge ou autres qui seront toujours ravis de vous aider à débarrasser vos placards. Voilà, bah une foule de petits détails pratiques comme ça hein, à mettre en œuvre. Je vous propose à nouveau d'écouter de la musique et on continue à faire ce petit inventaire à la Prévert des anti-stress.
When I was young, just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure.
Bah oui. Voilà, vous êtes toujours sur IDFM Radio Anguien avec le sujet d'aujourd'hui qui est le stress. Nous accueillons maintenant un nouveau témoignage. Chantal, bonjour.
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 Bonjour Isabelle et bonjour Hélène.
Bonjour, merci.
J'ai écouté votre émission de, pratiquement depuis le début.
Super, alors voilà. Ça vous a inspiré?
Voilà, ça rejoint beaucoup de choses que je pratique.
Oui, puisque vous êtes vous une voilà. spécialiste du stress, donc vous êtes prof de Qigong.
Oui, depuis 25 ans.
En province, hein, depuis 25 ans, ah oui.
Oui, oui.
Vous êtes également chef d'entreprise, si je ne
oui.
m'abuse.
Mm-hmm. Oui.
Donc le stress en entreprise, ça vous connaît?
Bien sûr.
Voilà, et alors là vous intervenez aujourd'hui spécifiquement sur le sujet du Qigong pour les étudiants et les,
oui,
et les lycéens, parce
voilà,
que c'est la
voilà.
saison. Hein. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites avec eux, ce qui se...
Alors,
sont les événements
étant administrateur de la Fédération des enseignants de Qigong nationaux, nous avons décidé cette année, lors des 20e journées nationales, de proposer justement des exercices spécifiques anti-stress pour les étudiants et les lycéens qui vont passer leurs examens et pouvoir un petit peu gérer toutes ces émotions. Donc voilà.
Alors rappelez-nous peut-être brièvement le Qigong, c'est quoi ça, en quelques mots
On pourrait traduire ça comme exercice chinois de santé et de longévité. Ça existe depuis plusieurs millénaires. C'est issu quand même de la médecine chinoise. Ce sont les prêtres chinois dans les monastères qui pratiquaient ces exercices pour gérer leur énergie, tout simplement. Et ça peut aboutir aux arts martiaux.
D'accord. Alors le Qigong, ce qu'on connaît souvent, c'est ces mouvements très lents qui ressemblent un petit peu à ceux du Tai Chi.
Oui. Voilà. Oui. Le Tai Chi est un peu plus récent que le Qigong. Mm-hmm. Hein. Il a quelques centaines d'années. C'est un peu plus récent. Ça a été même exporté par Mao puisque ce n'était pas religieux. Et que lui, il avait supprimé le Qigong en Chine parce que c'était religieux. Et maintenant, bon, c'est ouvert sur toute la planète maintenant.
Donc le Qigong, c'est à la fois des mouvements et c'est aussi des massages, des automassages
hein,
qu'on peut se
absolument.
Faire pour s'aider. Alors,
absolument.
Est-ce qu'à la radio, je ne sais pas, vous pouvez nous expliquer un peu, par exemple, ce qui pourrait aider nos lycéens, nos étudiants
dans les
révision?
Qu'on a un petit peu sélectionné pour nos chers petits. Ce sont on propose par exemple un automassage qui est très facile à faire où on démarre les doigts en forme de peigne et on va poser nos doigts sur la racine des cheveux au-dessus du front et on va progresser en appuyant bien fort vers l'arrière de la tête jusqu'à la nuque et en appuyant légèrement un petit peu sur toute la surface du crâne pour libérer ces tensions qui peuvent s'installer et c'est des exercices en plus qu'on peut faire bien avant l'épreuve, hein, bien avant l'examen, mais aussi le jour de l'épreuve devant sa copie.
Oui, c'est assez discret finalement, hein. C'est comme si on se recoiffait
exactement.
Avec les doigts.
On peut se frotter la tête,
oui.
Hein. Parfois on le fait par réflexe, là on peut le faire en confiance, c'est mieux, hein. J'entendais votre invité parler de faire les choses en conscience, se reconnecter à soi, le lâcher prise, tout ça, ça me parle énormément et ça nous parle, nous professeurs de Qigong évidemment, hein, pour faire tomber la pression et lâcher prise, c'est important. Ça ne veut pas dire lâcher ce qu'on est en train de faire, mais se reconnecter à soi, se relier à soi-même,
oui.
être à l'écoute, en accord avec soi-même. Ça, c'est très important.
Alors, il y a aussi le petit massage du poignet.
Oui, ah oui, parce qu'on est sur le maître du cœur. Je pense que maintenant, la plupart des gens connaissent les méridiens où on pratique l'acupuncture ou la digiponcture. Et bien là, on va faire un petit exercice de digiponcture. Sous le pli du poignet, du côté de l'articulation, c'est-à-dire le côté interne, et on va presser vigoureusement avec le pouce un endroit à trois doigts du poignet, qui est le six-cœur. Voilà.
Donc c'est plutôt en dessous du pouce ou en dessous du petit doigt
Alors, c'est vraiment sur la ligne, dans le prolongement du majeur.
D'accord.
Voilà, vous ouvrez la paume de la main.
Au milieu du poignet.
Dans le prolongement de votre majeur, à trois doigts, c'est une mesure. Hein, on mesure beaucoup avec ses propres doigts en Qigong. À trois doigts, à la pliure du poignet, dans la face interne.
D'accord.
Vous allez trouver un point. Hein, qui est le 6 mètres du cœur et qu'il faudra presser, faire une acupression d'à peu près 15 secondes. Évidemment, on peut faire ça sur les deux poignets,
hein,
puisqu'on a les méridiens sur les deux bras.
Et ça fait quoi alors?
Alors ça aide à la concentration et à la mémoire.
Mmh.
Donc c'est quelque chose qu'on peut pratiquer vraiment n'importe où, si confortablement.
Très discret aussi, oui.
Voilà, très discret. Très discret. Et puis, alors ça, s'il s'agit d'automassage, on peut aussi faire d'autres automassages, il y en a bien d'autres, hein, notamment si on reste trop longtemps sur sa copie ou devant l'ordinateur. Maintenant, les enfants travaillent beaucoup sur ordinateur. C'est de travailler aussi, de se masser un petit peu les yeux. Voilà, il y a des choses à faire aussi à ce niveau-là, pour décontracter vraiment l'orbite, les yeux, faire rouler les yeux dans les orbites, en mettant on met ses mains à peu près à 10-15 cm de ses yeux, et on laisse pénétrer l'énergie qui vient des mains à l'intérieur de l'œil, et en même temps, on va regarder sans bouger la tête, lever les yeux au-dessus des doigts, en dessous des paumes des mains, et de chaque côté des mains, hein, à droite et à gauche, en haut, en bas, côté. Et voilà, et on fait rouler, et ça détend vraiment
les yeux, d'accord.
Voilà.
Alors dites-nous un petit peu au niveau de la France, il y a beaucoup de choses qui vont être organisées au mois de juin, puisque c'est donc mois du Qigong.
Oui, tout à fait.
Avec beaucoup de manifestations gratuites dans plus de 200 villes ou 300, je ne sais plus, en France.
Oui.
Et donc ça veut dire qu'on peut tous, dans des jardins publics, dans des lieux, dans différents lieux, s'entraîner au Qigong.
Chaque professeur ou chaque association prévoit des lieux pour accueillir. Là, moi, je suis en Meuse, je vais accueillir des étudiants gratuitement sur la ville de Bar-le-Duc à l'heure de mes cours régulièrement. J'ai déjà un peu commencé parce que les examens ont déjà commencé et que je me suis un peu anticipé. Et autrement, on peut effectivement, il y a certaines régions qui organisent carrément en région des manifestations plus étendues qui ne se limitent pas à l'association elle-même, mais à un regroupement de professeurs qui vont faire des pratiques un petit peu plus ouvertes sur plein de monde. Moi, c'est ce que j'organisais avant, puisque j'étais en région lyonnaise avant, c'était des unions régionales.
On donnera tout à l'heure l'adresse du site pour pouvoir trouver les manifestations à Paris, en région parisienne aussi, pour nos auditeurs. Donc le Qigong, vraiment, ça peut s'apprendre en une ou deux séances et ensuite se pratiquer seul, ou est-ce que ça nécessite des cours hebdomadaires?
Moi, je pense que ça doit être régulier, parce que c'est tellement vaste. Quand on y a mis le petit doigt, le bras passe aisément, parce que bon, c'est vraiment grâce à la répétitivité des mouvements que l'on apprend qu'on peut arriver à lâcher prise, à trouver du bien-être.
Oui.
Une ou deux séances, c'est juste pour se rendre compte si ça vous convient ou pas.
Oui.
Parce que, comme de tout, il y a des personnes qui préfèrent d'autres activités, et c'est bien légitime. Mais bon, voilà, pour vraiment, faut pratiquer au moins une année. Mais vous voyez, moi, ça fait 25 ans et j'ai l'impression de rien avoir encore appris dans la mise en place. Parce qu'en fait, le Qigong est une discipline qui est une pratique qui pourrait ressembler à de la gymnastique si elle n'était pas accompagnée de l'attention qu'on met dans le geste. autrement, c'est de la gymnastique pure.
Oui.
Mais si vous y mettez une attention, tout à l'heure votre invité parlait de, vous êtes sous la douche, là vous êtes tel que vous devez être, et vous vous mettez à chanter. Eh bien, c'est un peu cette situation là que j'aime retrouver chez mes élèves, c'est-à-dire on lâche la journée, on va lâcher les valises, on va se poser et on va pratiquer ensemble. Moi, j'ai tellement maintenant l'habitude de gérer les cours que je vois dans quelle situation de stress ils sont, oui, quand ils arrivent en cours. Et parfois, il y a des choses que j'ai prévues que je ne fais pas, mmh, et on s'oriente sur autre chose parce qu'il y a un besoin.
Très bien.
Et ça, c'est du ressenti.
Merci beaucoup, Chantal Pinard. Le temps passe très vite. Je vais revenir vers mon invité, Hélène Mamonet. Merci beaucoup d'être intervenue.
Merci à vous.
Bonne journée. Au revoir. Voilà, donc les étudiants, pensez-y, hein, c'est important, des petits exercices de respiration, d'automassage qui peuvent vraiment bien vous aider à la fois à vous concentrer et à vous décontracter avant des entretiens, etc. Hélène Bonnet, eh bien, on va continuer à faire, à donner des petites idées, des petits exemples à nos auditeurs, hein, de ce qu'on peut faire. Donc, on avait fini de vider les placards, là, tout à l'heure. Alors, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors là, on rentre dans la quatrième partie, la conscience de soi, être davantage conscient de soi. Et là, vous proposez par exemple d'écrire ses qualités, de recenser quelles sont ces sept qualités.
Oui, alors évidemment pas n'importe comment, parce qu'il ne s'agit pas de gonfler son ego, il ne s'agit pas non plus d'aller vers ce qu'on appelle l'idéal du moi, mais juste de se dire, tiens, dans telle situation, telle qualité m'a vraiment aidée, voire à aider autrui. Et il ne suffit pas de faire ce travail uniquement tout seul, mais d'aller voir son entourage, de lui poser des questions sincères là-dessus, mais d'aller voir aussi les rivaux, les concurrents, ce qu'on appelle quelquefois vulgairement nos ennemis, parce que c'est souvent nos ennemis qui sont les plus fidèles comptables de nos qualités. Et quand on regroupe les réponses des uns et des autres, on voit en général qu'il y a une certaine convergence.
Donc ils sont ennemis parce qu'ils sont jaloux finalement de nos qualités. C'est ce qu'on peut penser.
Ça peut être ça, tout à fait. Oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la convergence des réponses des uns et des autres. Et c'est là où vraiment on a fait une vraie comptabilisation. Alors, si on n'arrive pas à 7, c'est pas grave.
En tout cas, c'est pas voir que nos défauts, quoi. Voilà. C'est voir aussi nos qualités.
Et puis 7, c'est un chiffre symbolique. C'est pour ça que j'ai dit 7, mais 5, ça va tout à fait aussi, hein.
Alors, il y a une autre proposition que j'aime bien aussi, parce qu'elle est très concrète, c'est de décrire ce qui nous dérange, ce qui nous met en colère, ce qui nous pèse, de l'écrire et ensuite de faire un petit cérémonial.
Oui, faire un petit rituel.
Un petit rituel, oui.
Alors, l'écriture, c'est pas forcément de la littérature. Hein, ça peut être un exutoire extraordinaire au niveau émotionnel. Donc, quand vous êtes en colère après quelqu'un, par exemple, vous mettez tous les noms d'oiseaux que vous avez en tête sans vous restreindre sur une feuille de papier. Et vous allez jusqu'au bout de votre colère avec l'écriture. Et une fois que vous avez votre feuille de papier, voire vos feuilles de papier complètement remplies, c'est important d'aller les brûler dans, bien sûr, l'endroit adéquat avec le réceptacle adéquat, et de regarder se consumer le papier. Parce que c'est à ce moment-là que arrive le moment magique où on sent que tout se disperse comme les cendres,
ça part
qui sont
fumée,
très volatiles. Et notre colère, ainsi dissipée, va nous permettre, le lendemain, le surlendemain, quand on va revoir la personne qui est l'objet de notre colère, de lui parler de notre ressenti beaucoup plus tranquillement et de lui dire, tu vois là, ça m'a fait quelque chose, maintenant je peux te le dire calmement. Et peut-être qu'on peut aller dans une autre direction ensemble pour la prochaine fois.
On a déjà sorti sa colère, quoi.
Exactement.
On a déjà un petit peu, elle s'est évaporée.
C'est une catharsis, comme on dit dans notre jargon de psy.
Vous conseillez aussi d'être le plus souvent possible vrai, de ne pas tricher, de ne pas mentir, c'est ça? Pourquoi ça fait du bien d'être vrai?
Ça fait du bien d'être vrai parce que tout simplement, ça permet d'être en alignement avec ses valeurs. Ça permet de reconnaître vraiment que ce que on vit, c'est juste et bon pour nous, et que les autres ont à le savoir, parce que les autres ne peuvent pas deviner forcément comment nous fonctionnons. C'est vrai qu'on est chacun des petites bulles quelquefois dans le travail, par exemple, où on donne une impression, on joue un rôle, etc. Et on s'aperçoit qu'à force de construire un personnage qui est faux, on devient dans un espèce de malaise permanent qui fait que à un moment donné, c'est plus tenable.
Ça donc, demande de l'énergie, en fait.
Voilà. Ça ouais. Alors, ça veut dire qu'il faut vraiment très régulièrement dire au plus profond de nous ce qui nous convient ou ce qui nous perturbe.
Donc c'est déjà être vrai avec soi-même.
Et alors puis avec être vrai les avec soi-même, aussi. C'est pas se raconter d'histoire, ouais. Ça c'est sûr. Mais il y a toujours un moment où le corps vient nous rappeler qu'on est en train de tricher. Donc dans ces moments-là, il faut être très attentif. C'est peut-être le moment de dire les choses et aussi de dire son besoin. Parce que beaucoup de personnes se censurent, s'auto-censurent sur l'expression de leurs besoins. Mmh. Et on parlait du stress en entreprise tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ont peur de demander ce qui leur convient. Parce qu'ils ont peur de passer pour quelqu'un de ceci, de cela, qui est pas conforme à la culture de l'entreprise, etc. Et du coup, on accumule les malentendus et ça crée un non seulement un stress, mais ça crée une fausseté dans les rapports entre notamment managers et collaborateurs.
Le temps passe très très vite avec vous, Hélène Monnet, hein, parce que c'est il y a tellement de choses à voir. Bon, j'invite les lecteurs évidemment, enfin les auditeurs à devenir des lecteurs de votre petit livre. On fait une dernière pause musicale parce qu'on a une très jolie musique qui est celle d'Hôtel
Cinema Paradiso.
Cinema Paradiso, oh, vous faites ça bien. Allons-y.
Thank you.
l'émission va bientôt se terminer sur le stress avec Hélène Monnet. Alors on en profite, il nous reste quelques minutes pour aborder encore un ou deux conseils. Donc peut-être un conseil important, c'est de ne pas rechercher la perfection.
Mais d'optimaliser.
Ouais.
Effectivement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, liées aussi souvent à la culture de l'entreprise et des objectifs à atteindre, faut bien le dire, sont dans une perfectibilité permanente. Et en fait, plutôt que de se dire je vais faire mieux, je vais faire plus, dire je fais au mieux à chaque moment en bonne intelligence de la situation. Donc, naviguer à vue beaucoup plus et ne pas se créer un schéma des choses qui devraient être, mais de voir les choses plutôt telles qu'elles sont, moment par moment.
Et le tout dernier conseil, mais non des moindres, c'est accueillir au mieux tout ce qui vient.
Oui, tout ce qui vient.
Le bon, le mauvais.
Voilà, alors déjà, pour le bien, vous allez me dire, on sait quoi en faire. Pas toujours, parce qu'on sait pas forcément bien accueillir les bonnes nouvelles. Prendre le temps de sauter au plafond, de vraiment manifester dans son corps la joie, c'est important. Et puis pour les choses qui sont pas très très agréables, se dire que bon, on est quand même en vie, et donc tant qu'on est en vie, on a la possibilité quelque part d'aller chercher au fond de soi les ressources nécessaires. Et derrière un événement apparemment négatif, peut se profiler une opportunité qui peut changer notre vie. Je pense souvent aux histoires chinoises où un sage dit malheur, bonheur, qui sait devant chaque événement. Effectivement, quand on prend le recul, quelquefois quelques mois après, on s'aperçoit que ce qui nous est arrivé d'apparemment terrible ce jour-là a été vraiment une opportunité incroyable qui nous a permis de progresser.
C'était un mal pour un bien, comme on dit.
Voilà.
Dans le langage populaire. Voilà, merci beaucoup Hélène Monnet. Cette émission se termine, donc je vais rappeler le titre de votre livre, Les 50 règles d'or pour ne pas stresser, d'Hélène Monnet. On peut également vous retrouver sur votre site www.selfharmonia.com. www.selfharmonia.com. Donc vous organisez des stages notamment en Suisse et en France.
Oui, de prévention du stress pour les entreprises mais aussi pour les particuliers.
Voilà, il y en a un cet été je crois, donc on retrouvera toutes ces informations
dans
sur votre site dans le Valais. Merci beaucoup d'être venue jusqu'ici Hélène Monnet. Et cette émission se termine. Je donne rendez-vous à vous, mes chers auditeurs, dans 3 semaines, cette fois-ci, donc le 13 juin, pour une nouvelle émission qui sera consacrée à la programmation neurolinguistique, cette fois-ci. Voilà, merci bien. N'hésitez pas à proposer des idées de sujets si vous le souhaitez. Je reste toujours à votre écoute. Au revoir et bonne semaine à tous.
Merci.
De la radio.
Je vous donne rendez-vous chaque samedi à 19h30 pour toutes les Dance Music. Dance Express, le son des Dance Floor sans aucune pub sur IDFM Radio Anguin. Avec le mix de nos DJ résidents, DJ Sims, Alan Aurel, DJ Latino Boy. À samedi 19h30 pour surfer sur les sons clubbing du week-end. On se retrouve tout de suite sur Facebook, IDFM Radio Anguin.
Solidarité Sida et la région Île-de-France présente
Solidays, 80 concerts contre le sida du 27 au 29 juin à Paris-Longchamp. Avec Franz Ferdinand,
Métronomie,
Faux,
Woodkid,
M,
Chaka Pong,
Vitalik,
Patrice,
FFF,
Farof Stella,
Gossa Polstein,
Rodrigo et Gabriella,
Skip the Use et beaucoup d'autres.
Info Reza, solidays.com et point de vente habituel.
Solidays, pour le prix d'un concert, offrez-vous un festival.
Un événement Solidarité Sida.
98 FM, Radio Anguin, IDFM, ça change de la radio.
Marie-Laure Attineau.
Un nouveau numéro de On en parle, l'émission que vous attendez tous avec une impatience non dissimulée. La procédure, vous la connaissez, on éteint ses portables, c'est bon également pour mes invités. On prend à côté un papier et un crayon pour noter toutes les indications pour aller voir les spectacles dont on va vous parler aujourd'hui. Alors vous savez que dans 2 jours, il y a 2 événements. Le premier, le plus important, celui de cœur, c'est la fête des mères. Et c'est pourquoi on vous fera plein de cadeaux pour la fête des mères. Deuxième événement, et c'est à peu près le seul moment où je fais de la politique, c'est les élections européennes. Alors, vous votez pour qui vous voulez, hein, à droite, à gauche, au milieu, comme vous voulez, mais surtout, allez voter, et surtout pour vous, les filles, parce que nos grand-mères, elles se sont battues pour qu'on vote, donc c'est pas mal non plus d'aller voter, parce que si vous n'êtes pas content et que vous n'avez pas voté, eh ben, vous avez qu'à fermer votre gueule. Voilà, donc c'était le truc, puis naturellement, vous pensez de fêter vos mamans. Et plein d'idées de cadeaux, alors, des livres, des DVD, mais pourquoi ne pas offrir des places de théâtre? Et alors, j'ai avec moi quand même, s'il vous plaît, j'ai quand même un plateau avec des aristocrates et pas des moines. J'ai avec moi Marie-Antoinette et le chevalier Déon, dont le sexe a posé moult problèmes, donc on verra tout à l'heure. C'est un spectacle qui s'appelle Royal Légende, et ça se joue actuellement au Théâtre du Lucernaire. C'est tous les soirs à 20h, tous les soirs, c'est-à-dire du mardi au samedi, et le dimanche c'est à 15h, donc vous pouvez inviter votre maman à aller voir Royal Légende. Et avec moi, j'ai les comédiens, à savoir, comment s'appellent-ils? Mais oui, ils sont là.
Patrick Blandin.
Nadine Degea.
Voilà. Donc, vous êtes mise en scène par Xavier Berlioz, qui avait fait l'honneur de passer par là. Et c'est un spectacle qui est purement historique, mais inventé.
Oui.
Est-ce que j'ai bien résumé?
Voilà, c'est une correspondance imaginaire qui n'a jamais existé, hein, comme son adjectif l'indique, entre le chevalier Déon, que j'interprète, et la reine Marie-Antoinette, la dernière reine de France, qui a fini, comme tout le monde le sait,
mal,
en 2 morceaux. Voilà.
Alors, les cruciverbistes connaissent très bien le chevalier Déon, donc on s'est souvent interrogé sur le sexe de ce chevalier, hermaphrodite, homme, femme, travesti. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'était un espion.
C'était un espion, et ce qu'on sait aussi surtout, c'est que c'était un homme. Il y a eu une autopsie qui a été réalisée à la fin de sa vie, mais il a passé les 33 dernières années de sa vie habillée en femme, dans un univers de femmes, entourée d'amis ES qui étaient persuadés qu'il était, enfin, qu'elle était une femme, et parce qu'il avait eu des problèmes, il devait se planquer, et donc ses 33 dernières années de sa vie ont été passées sous le costume féminin. À l'issue de son décès, il a été autopsié et on s'est aperçu qu'effectivement c'était un homme.
Voilà. C'était un homme, et je crois que d'ailleurs dans les aventures du commissaire Nicolas Le Floch, on en parle, et je recommande vivement ces livres qui sont admirablement bien faits. Alors, être tous les deux sur scène au Lucernaire, où on connaît quand même le peu de possibilités de stocker costumes et décors, enfin on y arrive très bien et on voit souvent de super. Donc c'est une gageure quand même de représenter justement les fastes de la cour et de la diplomatie souterraine, hein.
Alors c'est là où le metteur en scène Xavier Berlioz a été à la fois brillant, inventif et surtout original, comme le souligne Le Figaro ce matin, c'est qu'il a construit toute sa scénographie et sa mise en scène autour de costumes d'époque qui ont été réalisés par Magali Séguin et Axel Boursier sur mesure pour nous deux. On a le
très beau costume,
très
vraiment
beau costume, voilà, et on a tout le rendu des fastes de la noblesse de cette époque-là, avec une robe sublime pour Marie Antoinette et un costume à la fois mixte
costume à fois homme et femme,
voilà,
pour le chevalier
Donc qui évolue au fil de la scénographie.
Alors je crois que ce qui est important avec le rôle de Marie-Antoinette, c'est-à-dire, je crois qu'il y a eu beaucoup d'injustices, alors soit que c'est une sainte, soit que c'était une pauvre fille, une putain, une perverse qui a mis la France par terre parce qu'elle dépensait sans compter, tout ça. Alors il y a eu vraiment les deux écoles, et je trouve très beau le film qu'a fait Sofia Coppola, surtout pour deux mamans que je trouve absolument magnifiques. Bon, je suis un petit peu exaspérée par la mode des macarons qui n'est pas forcément une réalité historique, mais très très beau. À un moment donné, c'est quand ils partent, qu'ils quittent Versailles, et au petit matin, et qu'ils regardent et qu'ils ont la perception qu'ils ne reviendront jamais à Versailles et qu'ils tournent la page d'un monde qui est aboli. Et dans la pièce, vous reprenez un très joli moment dont on n'a pas parlé très souvent dans les films. C'est qu'il faut savoir que Marie-Antoinette savait depuis très longtemps qu'elle serait la dauphine de France, mais que lorsque l'on quittait son pays, on quittait absolument tout, et qu'ensemble on était dénudés de tout, même des vêtements. Oui, Nadine.
Oui, c'est complètement ça en fait. On entre là avec cette Marie-Antoinette là, on entre dans l'humain en fait. On oublie tout le reste, on a une enfant qui a été élevée pour une certaine vie, on lui a jamais demandé son avis, dans une société en plus complètement patriarcale à l'époque. Donc voilà, elle naît fille, on décide de la marier au roi de France, et à 14 ans elle arrive à la frontière, elle doit oublier tout le monde, elle doit oublier tout ce qu'elle aimait, on lui enlève ses vêtements quand même à la frontière, on lui retire tous ses vêtements et on l'oblige à se vêtir à la française. Et puis toute sa vie ce sera ça en fait, il faudra toujours qu'elle soit comme on a envie qu'elle soit. Et elle essaiera juste à des moments, et je pense que c'est ça qui est le drame de cette femme, c'est que pour être heureuse un minimum, et ben ma foi, elle a saisi certaines choses en ne sachant pas toujours ce qui se passait à l'extérieur, j'en suis profondément convaincue. Et malheureusement, ça l'a tuée en fait. Elle est morte d'être née femme. Alors, avec certains avantages, parce qu'elle était dans une société où, voilà, on mangeait bien, pour autant, ça reste
mais
une femme.
Mais elle avait quand même une étiquette. Enfin, elle venait quand même d'une cour à la fois des Lumières et avec une étiquette très lourde. Alors, vous parlez de patriarcat, mais elle, c'était plutôt du matriarcat. Néanmoins, une femme née pour ne pas avoir de nom, puisqu'elle, depuis très longtemps, on a abandonné notre nom pour avoir celui de notre époux. Et c'est pour ça que je parlais pour le droit de vote, parce qu'il faut savoir que c'est assez récent en France quand même, par rapport à d'autres pays.
Absolument.
C'est le général de Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes. Mais sachons que jusqu'au début des années 60, pour avoir un carnet de chèques, une femme devait avoir l'autorisation de son mari.
Absolument.
Et que pour travailler, elle devait avoir l'autorisation de son mari.
Tout à fait.
Donc c'est pas si loin que ça. ça. Les jeunes femmes de maintenant ne s'en rendent pas compte, et on parle de l'égalité des sexes, on est quand même dans un pays où, à même poste, une femme n'a pas le salaire égal.
On est complètement d'accord, et effectivement, le chéquier, c'était 1965, et même si voilà. Les hommes plaisantent en disant qu'en 65, même les hommes n'avaient pas de chéquier, pour autant, c'est quand même dramatique. Quand même hein. Ouais. On est d'accord. Vous parliez effectivement de matriarcat, je suis absolument d'accord avec vous, mais pour autant, on est quand même dans un matriarcat qui est créé par une société patriarcale.
Tout à fait.
Voilà,
Oui, de toute façon, on savait très bien. Et je fais un parallèle avec Marie-Antoinette et avec Marie Stuart pour l'éducation, parce que Marie Stuart, elle a été élevée à la cour de France toute petite, enfin une grande famille, enfin elle est apparentée aux Guises. Et le gros problème de Marie Stuart, c'est qu'après, elle a été mise dans un pays finalement qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle s'est trouvée, elle avait vécu aux faces de la cour de France, qui est quand même un phare depuis très longtemps, de raffinement, de lettres et tout ça. Et c'est un peu le problème aussi de Marie-Antoinette, qui, je crois qu'elle avait 14 ans.
14 ans.
Hein, lorsqu'elle est arrivée.
Oui, 14 ans.
Vraiment. Donc, on voit que, enfin, c'est très émouvant quand on va, je crois, c'est à Schönbrunn, il y a les poupées de Marie-Antoinette. Mmh. Bon, on voit que c'est en somme, c'est un truc. Donc ça, c'est très important. Et alors, ce chevalier Déon, alors, est-ce que chevalier Déon, c'était son vrai nom?
Oui, c'était son vrai nom. En fait, il s'appelait Charles Geneviève Déon. Il était fils d'une famille de petits nobliaux bourguignons qui possédaient des vignes. Mais c'était surtout un type extrêmement, alors beaucoup plus brillant que celui qu'on présente dans cette partie de vie que représente la pièce. Le personnage historique était un mec absolument incroyable, qui réussissait tout, qui a été espion, mais il n'a pas été espion parce que c'était un bon espion, il a été espion parce qu'il l'avait décidé, parce qu'il s'ennuyait, il avait réussi les plus grandes écoles, il était bon dans tout. Il parlait plusieurs langues.
Parce qu'il était agent double aussi, voilà, à un moment donné.
Il a été à la cour
même
de Russie.
Même peut-être triple, disent les mauvaises langues.
Ouais, il était multiple, on va dire. C'était un bretteur incroyable, c'était un homme d'armes hallucinant, c'était une des plus fines lames d'Europe, et c'était pas vraiment une expression.
Et je crois qu'il s'est battu en robe, hein, en tant que femme.
Robe,
hein.
Oui, tout à fait.
Il était fantasque.
C'était un type complètement incroyable et très complet.
Et c'était Charles de Beaumont.
Je vous propose de faire une première pause musicale. Alors, il y a un grand succès actuellement. Alors, retenez, parce qu'il y a ces petits, c'est au studio de la Comédie Française, c'est un cabaret Georges Brassens. Alors, vous savez qu'en France, on est très attaché à l'auteur qui chante, voilà. Mais là, je peux vous dire que si vous me dites en sortant que vous avez passé un mauvais moment, je vous dirai tout simplement que vous êtes des menteurs. On écoute tout de suite un premier extrait de ce spectacle réjouissant.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir les bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, désarmés, incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te garde dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson.
Alors forcément, on n'a pas commencé forcément par la chanson la plus gaie, et je tiens à dire, si ne pleurez pas devant votre micro, votre écouteur, il y a des amours heureux. Bon, alors bien sûr, on vous parle de Marie-Antoinette, donc c'est peut-être pas forcément un exemple. Nous avons été rejoints. Qui êtes-vous, jeune homme? Présentez-vous.
Hervé Masquelier.
Hervé Masquelier qui vient pour la deuxième fois chez nous.
Oui, en un an, c'est presque un abonnement.
On est, voilà, exactement. Pour un spectacle qui s'appelle...
Le jardinier de la mer Rouge.
Voilà, moi déjà je trouve que le titre, c'est, on dirait vraiment le titre d'un poème.
Ben, c'est presque un poème, quelque chose qui ressemble, en tout cas si c'est pas un poème, en tout cas c'est une pièce de théâtre, mais très particulière, très étrange, écrite d'une façon peu orthodoxe par rapport à l'écriture théâtrale, ce qui n'est pas facile à mettre en scène et à jouer, mais voilà, c'est un poème parce que c'est un texte qui est écrit à partir d'un cri d'un auteur qui s'est retrouvé dans une situation où, heureusement, on est moins nombreux que ça à y être, mais confronté, mais qui était terrible, qui est l'autisme. Ouais. Et il a écrit ça, cette pièce, donc il parle de l'autisme, un peu pour... probablement, c'est difficile de parler pour lui, mais probablement pour exprimer la force et la douleur que représente l'autisme, non seulement pour l'individu lui-même, certainement, mais ça c'est difficile de le savoir, et en tout cas moi ça je peux pas en parler, mais à l'évidence, pour l'entourage, les parents bien évidemment.
Oui, parce qu'il faut expliquer que l'autisme ce n'est pas vraiment ce qu'on voit dans Rain Man, parce qu'il y a des autismes très 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 profonds, de personnes qui n'arriveront jamais à parler, qui auront des grognements, et puis que l'autisme, il faut savoir qu'autrefois les autistes on les mettait dans les asiles de fous, comme les sourds, les muets, tout ça, parce qu'on ne sait pas, on a peur, donc on le catalogue toujours fou, et donc il y a eu L'ombre de Théo, qui a été une superbe pièce, qui a été faite également sur un couple de comédiens qui ont eu un enfant autiste, et puis Francis Perrin a fait beaucoup avec sa femme pour parler, et ce qu'il disait très justement, il disait, nous, ça a été un chemin de croix, mais moi, nous avions quand même les moyens financiers de pouvoir le faire, tandis que des gens sont complètement démunis, à la fois financièrement, intellectuellement, et les places pour mettre dans certaines... Il faut une attention, je veux dire qu'avoir un enfant autiste, c'est attentif 48 heures sur 24 heures, quoi. Il faut être là constamment. Oui, Hervé.
Oui, non, c'est, tout ce que vous dites, c'est non seulement très juste, enfin très juste pour ce que j'en connais, parce que je ne suis pas confronté à cette situation-là, mais le thème de la pièce, tout ce qui est dit dans la pièce, c'est ce que vous racontez, c'est l'autisme. Mais en fait, il y a autant de formes de cette maladie-là qu'il y a d'individus, j'allais dire normaux, ou d'individus sur Terre. Il n'y a pas un autisme, il y a des autismes. Et puis, à la limite, nous avons tous notre part d'autisme personnel. Donc, voilà, c'est ce qu'on commence timidement, progressivement, à découvrir que finalement, ben, c'est une maladie, certes, mais c'est peut-être aussi une autre forme de la personnalité ou d'expression de l'expression humaine. Bon, voilà, donc c'est très douloureux. Ventura avait parlé de ça très bien en son temps, au regard de l'handicap de l'enfant et de la difficulté que ça représentait dans une société qui n'est pas tout à fait, effectivement, forcément toujours mature pour prendre en charge ses propres peurs, et c'est certainement une source d'inquiétude, donc de peur, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui se retrouvent confrontés à ça un beau matin sans trop l'avoir voulu, et après avoir espéré un enfant. Enfin, je veux dire, mettre au monde un enfant, c'est certainement la chose la plus merveilleuse qui soit, et ceux qui en ont le savent, ceux qui n'en ont pas encore le sauront, je l'espère. Et se retrouver tout d'un coup, un beau matin, au moment où on commence à espérer voir son enfant réagir à des choses qui sont quotidiennes, répondre, hein, à l'appel et à la découverte, et puis qui tout d'un coup, ben, ou ne répond pas, ou répond à sa manière. Quel désarmement, quel vertige, quel précipice. Et c'est le thème de la pièce. Alors oui, c'est une forme de poème, comme vous le disiez. C'est une
forme de poème. Tout de suite où on peut voir ce spectacle, Hervé.
On peut voir ce spectacle à Charenton, au théâtre de Charenton, qui se trouve 107 rue de Paris, à Charenton, sur la ligne 8 du métro, à la station Charenton École. C'est tous les jours et tous les soirs à 20h30.
Et c'est vraiment très accessible par les transports en commun.
Oh, c'est très facile, vous sortez en queue de ligne.
Dès qu'on n'est pas dans Paris même, ils ont toujours un petit peu une inquiétude.
On est à une demi-heure pour traverser Paris à partir de la Porte Maillot en métro. Donc, ligne 8, elle traverse deux fois la ligne 1, deux fois la ligne 6. Vous pouvez, c'est très facile. Et vous descendez Charenton École en queue, tout droit, 100 mètres plus loin. Vous avez le théâtre magnifique, resplendissant, lumineux, rayonnant.
Alors, c'est très joli. Alors, on vous disait que c'était aujourd'hui, vous n'avez aucune raison de ne pas écouter cette émission, parce que non seulement on vous propose des spectacles à la fois différents et intéressants, et les spectacles peuvent être des cadeaux de fête des mères, et bien, les éditions Erol offrent pour les mamans coup de foudre et coup de fourchette. Alors, coup de foudre et coup de fourchette, c'est écrit, vous savez que maintenant, on est abreuvé, même étouffé par les émissions sur la cuisine, plus ou moins bonne. Mais là, ça a été deux gagnants. C'est Noémie Onia et Quentin Bourdi qui, en faisant ce concours de Top Chef, ont trouvé l'amour. Et donc, ils ont fait un livre conjoint avec des recettes. Le livre est joli. C'est bien expliqué, hein, parce que voilà, j'ai regardé un petit peu comment c'était préparé. Et puis il y a des choses qui sont vraiment, il s'est bien expliqué, il y a la marche à suivre, il y a tout vraiment. Et c'est un livre qui est très agréable à consulter. Donc pour gagner tout cela, vous savez, vous connaissez la procédure, vous appelez 0134 12 12 22, vous déclinez votre identité et vous pouvez donc gagner ce livre Coup de foudre et coup de fourchette et aux éditions Erol, et on vous offre ce livre. Un autre livre totalement différent, mais parfois on ne sait vraiment pas quoi offrir. Alors, il y a un truc qui est pas mal du tout, c'est d'offrir, c'est Hors Collection qui fait toutes ces séries, et ben on vous offre le livre de ma jeunesse. Alors, ben, vous choisissez l'année, par contre, nous n'aurons pas à vous offrir forcément toutes les années à faire. Mais par exemple, je prends celui de 1965. C'est des jolis livres. D'ailleurs, je vais passer des exemplaires à nos invités pour qu'ils réagissent un petit peu sur les livres qu'on propose à nos auditeurs. Alors, le livre de ma jeunesse, c'est tous les souvenirs de mon enfance et de mon adolescence. Alors, bon, moi, j'aime bien parce que ça commence déjà par le calendrier des postes où on voit que naturellement, déjà, les époque, il y avait un ordre. Et puis, bah, c'est un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces années-là, dans la chambre d'un ado, quels sont les films qu'on va voir les jouets. Bon, bah, déjà pour les filles, il y a Barbie. Vraiment, ça a été une innovation quand on a commencé à avoir des poupées mannequins pour les garçons, G.I. Joe ou Ken, qui était l'amoureux de Barbie, et j'avais constaté qu'il lui manquait définitivement quelque chose entre les jambes. Mais on a Goldorak, on a ça, et donc c'est vraiment sympa, et c'est le cadeau finalement qui est assez fédérateur, parce que je trouve que c'est plutôt bien. On vous livre aussi des livres. Alors, Nounours, qui était vraiment fantomette, Martine, l'ineffable Martine. Je suis étonnée de voir Maxime et les Maximons, mais c'est vrai que c'était publié en 65, ce qu'il y avait à la radio. Et non, il n'y avait pas déjà, on en parle. Je sais, c'est triste, mais c'est arrivé après. Donc, on vous offre ces livres. Donc, c'est cette année, aujourd'hui, on vous offre 63, 65, et je ne sais pas celui que vous avez en main.
84.
Voilà, on vous offre ça, donc vous pouvez nous appeler pour gagner ces livres. Puis c'est marrant, ce petit rappel finalement des différentes époques. Il y a d'autres cadeaux, mais ça je vous le dirai tout à l'heure. Mais qui est ce bel homme qui nous a rejoint? Comment vous appelez-vous, monsieur?
Et bonjour, donc moi c'est Benoît Gourlet, et j'ai la chance d'interpréter le rôle du gendarme dans Le Jardinier de la Mer Rouge.
Car il y a un gendarme.
Et oui, il y a un gendarme. Il y a une grande amitié entre le gendarme et le jardinier qui date de très longtemps. Mais il faut venir voir la pièce pour comprendre.
Pour comprendre, mais vous allez quand même nous en dire un petit peu plus tout à l'heure.
Bien sûr.
Parce que sinon, si on n'en sait pas plus, on va être trop malheureux. Alors, quand on fait une pièce sur la correspondance parfaitement vraie, historique et totalement imaginaire entre Marie-Antoinette et le chevalier Déon, on lit tout sur ces personnages, ou on se base d'abord sur le texte? On peut faire les deux, naturellement.
Évidemment, on peut faire les deux, mais quand on a lu, il faut surtout tout oublier. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que Patrick...
Oui, c'est le principe même de cette correspondance-là. Ce n'est pas tellement de faire un spectacle historique avec la volonté pédagogique de faire passer un message ou de donner des informations historiques, mais surtout, c'est ce que notre metteur en scène nous a proposé de travailler. C'est ce qu'on veut défendre à travers ce magnifique texte de Bernard Larrey et de Frédéric Mancier. C'est de mettre en exergue l'amitié, l'histoire, la relation très, très, très forte. Et c'est ce que le public découvre et va avoir plaisir à découvrir, qu'on veut leur présenter. C'est cette relation.
Il a parfaitement raison, Xavier Berlioz, lorsqu'il dit que finalement, c'est Éon et Marie-Antoinette, c'est deux images porteuses de clichés, d'images d'Épinal. Il a parfaitement raison en disant cela.
Oui, surtout que tout ce qu'on connaît d'eux a été véhiculé pendant 200 ans et aujourd'hui n'a pas tellement bougé. Et ils étaient contemporains, ils se sont jamais rencontrés. Et le fait de mettre en relation ces deux personnages plutôt exceptionnels et incontournables de cette période du début des Lumières devient intéressant par la relation qui est créée, qu'ont créé les auteurs.
Par cette relation, ce qu'on veut montrer, c'est l'intimité profonde de ces êtres-là. Ils sont finalement, en étant avec l'autre, en confrontation avec l'autre, ils sont face à eux-mêmes avant tout. Et l'idée, en fait, c'est de montrer l'humain. C'est une pièce profondément humaniste.
Et c'est des échanges qui sont pas forcément, surtout pas historiques, et surtout qui peuvent être très drôles, comme des échanges peuvent l'être entre deux femmes, entre un homme et une femme, entre deux personnages qui se cherchent et qui ont vraiment qui ont des tas de choses à défendre, qui sont très modernes pour l'époque.
Et surtout, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de voir à quel point le jeu d'apparence est important. Parce que Marie-Antoinette, lorsqu'elle a voulu une certaine simplicité, qu'elle a voulu jouer à la fermière de luxe, soit, ça commençait déjà, je veux dire, elle a commencé à perdre l'aura de la jeune princesse, parce que ce couple me plaisait beaucoup. Il ne faut pas oublier que Louis XVI et Marie-Antoinette étaient véritablement accueillis, étaient vraiment adorés du peuple.
Elle, et c'était puis, une star au début, hein, c'est la première star,
absolument.
La première reine médiatique, oui.
Ouais.
Oui.
Et puis bon, après, de toute façon, nos hommes politiques le connaissent avec l'état de grâce, dont certains n'en ont pas du tout. Mais il y avait ça aussi, donc elle a joué une fermière d'opérette, un petit peu, et en
voulant des tissus plus simples, un atour plus simple. Et là, ça commençait à être dangereux un petit peu pour elle. On voit bien que cette cour, et non seulement pour le public, ce sont deux personnages qui sont toujours en représentation. Et en cela, ils sont vraiment tout à fait à leur place sur une scène de théâtre.
Complètement, ils sont en représentation tout le temps. Vous avez vraiment trouvé la bonne formule.
D'autant que la scénographie met ça en avant aussi, puisque on démarre le spectacle de manière quasiment pas nue, mais enfin on est en chemise de nuit tous les deux. Et puis au fil de l'avancée de l'histoire, Déon habille Marie-Antoinette et lui donne au fil de l'avancée de la première partie les atours de la reine qu'elle va devenir, puis qu'elle est, et puis elle va, par ses moyens et par sa protection, l'habiller lui et lui permettre de se cacher dans ce costume de femme, jusqu'à ce qu'en évoluant petit à petit dans l'histoire, on perde tous nos atours et on termine quasi nu, en tout cas complètement dépouillé sur la fin, sans tout
oui,
ça.
Oui, on revient les atours de la société.
Et c'est vraiment le sort de Marie-Antoinette, voilà, parce qu'elle a eu, elle a créé des élans de mode absolument incroyables, dont on a d'ailleurs, c'est magnifique.